France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Louis Althusser, philosophe reconnu, assassin excusé. Le 16 novembre 1980, le philosophe étrangle sa femme après 30 ans de vie commune. Et un étrange récit se met en place. Certains parlent de crimes passionnels, d'autres de meurtres altruistes. Et ils sont nombreux à le protéger. Car le coupable n'est pas n'importe qui. Il est l'un des penseurs français les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle et il enseigne dans la prestigieuse École normale supérieure de Paris, dite l'ENS. C'est ainsi que jour après jour se déploie le mythe de l'artiste maudit, étouffé par sa femme. Une thèse relayée par ses amis, ses élèves, mais aussi par la plupart des journalistes, reléguant la victime Hélène Rickman-Legossien aux oubliettes de l'histoire. Alors comment comprendre une telle complaisance de la part de l'élite culturelle française ? Et quid de la justice qui n'a jamais envoyé Althusser devant un tribunal ? En somme, comment s'est développée cette omerta ? Que nous dit-elle de ces années durant lesquelles le terme féminicide n'existait pas ? Quelle est donc cette banalité du mal ? Notre invité aujourd'hui, le chercheur en sciences politiques Francis Dupuy-Déry. Il est l'auteur du livre intitulé « Althusser, assassin » publié aux éditions du Remue-Ménage en 2023. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnant, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Point A, le train numéro 58094 va partir. Attention au départ.
Samedi 15 novembre 1980, Marseille. La femme qui entre dans la gare Saint-Charles est inquiète. Elle n'est pas sûre que ce soit une bonne idée de rentrer à Paris. Les gens étaient si doux dans le sud, si avenants. Située aux portes de la Camargue, la commune de Fos est pourtant loin d'être touristique. Le petit port de pêche s'est éteint depuis longtemps et l'industrie pétrochimique subit les chocs pétroliers. Or, c'est justement ce qui intéresse cette femme. L'idée de donner la parole aux ouvriers abîmés par les Trente Glorieuses et aux oubliés de la croissance, qui sont souvent les mêmes. Explication avec la journaliste Johanna Luyssen dans Libération en décembre 2023.
Un jour de février 1980, Joros se trouve dans son bureau du centre culturel Elsa Triolet de Fos lorsque débarque une sectuagénaire aux cartables élimées qui lui lance un tonique. « Ah, je vous cherchais depuis longtemps !» Elle décline son nom. Hélène Legossien. Elle est sociologue. Elle est tombée sur une émission à la radio qui parlait de son projet. Elle a cherché à le joindre par tous les moyens, mais nous sommes en 1980. Elle a mis un temps fou. Désormais, elle souhaite y participer, gracieusement, car elle est à la retraite. Joros accepte. S'ensuit une période passionnante, rythmée par des entretiens avec des familles ouvrières de Fos, des réunions et des spectacles au marché de Port-de-Bouc.
Cela fait des mois qu'Hélène Legossien sillonne les HLM et les marchés à la rencontre des ouvriers. Et tous commencent à la reconnaître. Cette petite dame brune et volubile, c'est Hélène la Parisienne. Oh, elle en sourit, acquiesce, mais elle n'en dit pas davantage. À part Adjo, le responsable du projet. Lui seul sait qu'elle est beaucoup plus qu'une sociologue parisienne et qu'elle a eu mille vies. Au fil de leur rencontre, elle lui raconte qu'elle est née à Paris de parents juifs ayant fui les pogroms de Russie. Qu'elle a été une résistante active, une communiste encartée, l'amie d'Aragon et d'Elsa Triolet, avec qui elle s'est fâchée d'ailleurs. Et qu'elle a été exclue du parti après un obscur procès dont le PC a le secret. Mais surtout, qu'elle est depuis 30 ans la compagne du philosophe Louis Althusser. Oui, Althusser, le caïman de l'école normale supérieure, la figure de proue des nouveaux intellectuels. En somme, qu'elle est l'épouse d'une figure majeure de l'intelligentsia parisienne. Une condition enviable ? Oui, à première vue seulement. Car je le sens, quelque chose ne tourne pas rond dans ce couple. Preuve en est ces nombreux coups de fil qu'Althusser lui passe. Ces mines anxieuses qu'elle arbore en raccrochant. Et puis un jour, voilà qu'elle lâche. Mon mari est mal, il est violent. J'appréhende vraiment le retour. Violent. Mais dans quel sens ? Elle ne le précise pas. Mais Joe a bien compris qu'une forme de harcèlement psychologique émane des lettres qu'elle reçoit. Il a vu le visage d'Hélène s'assombrir, se crisper. Il faut dire que cette lettre, l'intellectuel souffle dedans le chaud et le froid, avant de jeter un post-scriptum diabolique.
Je ne suis pas soucieux de toi, car la femme de Joe m'a dit que tu allais bien. Je t'imagine là-bas comme un poisson dans l'eau, malgré tout le dur boulot. Puis, me soutient comme une force inexpugnable la conviction profonde, pas du tout aventureuse ni hypothétique, que les choses sont en train de s'arranger entre nous et que je t'ai fait un mal considérable pendant 35 ans. La conviction aussi que tu peux le comprendre et que ça peut t'aider à surmonter cette chose affreuse que je t'ai fait vivre. Je sais bien qu'il faudra du temps et que ça dépend de moi, certes, mais pas entièrement. Ce n'est plus comme avant. Tu ne me manques pas, mais j'attends que tu reviennes pour te prendre dans mes bras. PS. Et téléphoner à Franca, qui est à Paris pour une maladie grave. Après une émotion, silence de 20 ou 30 secondes, elle s'est mise à parler comme avant. « Rien n'a changé. Rien ne change jamais », a-t-elle dit. « Tu viens quand tu veux. Je t'attends. »
Qui est cette Franca ? Une ancienne maîtresse, parmi d'autres. Althusser aime l'idée d'avoir, je le cite, « une réserve de femmes ». Et il l'assume. Parmi elles, Franca, donc, une Italienne, traductrice de Lévi-Strauss et de Merleau-Ponty. Althusser et elle sont restées longtemps ensemble dans les années 60. 12 ans, durant lesquels Hélène a serré les dents. Alors pourquoi reparler d'elle maintenant ? Pourquoi être si cruelle ? En montant dans le train de nuit qui l'amène à Paris, Hélène réfléchit. Et elle repense à ces mots nichés dans la lettre. Cette conviction profonde que tout est en train de changer et de s'arranger. C'est engageant. Mais ne serait-ce pas une manœuvre pour l'attendrir ? Il sait qu'elle vient d'acheter un petit appartement en rue Lucien Lehen, dans le 20e arrondissement de Paris. Le lieu est modeste, la rue assez sinistre. On est loin de leur appartement de fonction à l'ENS. Mais cette fois, elle sera chez elle. Elle y sera libre, loin des courtisans et loin des femmes qui tournent autour d'Althusser. Nouvel exemple avec ce témoignage publié dans le Corriere della Sera et signé Marie-Antonietta Maciocchi, communiste italienne.
Le soir où nous nous rencontrâmes, une main légère frappa à la porte. Une petite femme aux cheveux gris, modestement vêtue, se présente sur le seuil. Je croyais que c'était la femme de service qui venait nettoyer le studio. Il me la présenta avec chaleur et elle me sourit amicalement. J'ignorais qu'elle était sa compagne depuis de nombreuses années. Il nous emmena dîner dans un bistrot d'étudiants près de la Sorbonne. Les jeunes gens se le montraient du doigt comme s'il était une star. Althusser était beau, blond, vêtu avec cette élégance négligée dont il avait été l'initiateur auprès des philosophes les plus distingués de Paris. De 10 ans son aînée, elle n'était pas belle. Sèche comme un roncier, avec un visage douloureux, tel que possédé. Par la suite, j'eus l'impression qu'il était son surveillé spécial, en raison d'un amour multiple, fait de délires sensuels et politiques.
Peut-être, mais c'est elle qu'Althusser a choisie. Elle a été la première femme de sa vie. Et puis, leur histoire dure depuis si longtemps. Ils se rencontrent en décembre 46, un soir de neige, rue Lepic. Il a 28 ans, elle 36. Mais immédiatement, le jeune homme est happé, car Hélène force le respect. Elle était la maîtresse de Paul Vaillant-Couturier, elle a fait du cinéma avec Jean Renoir, et elle s'est engagée dans la résistance armée en zone occupée, dans la division Périclès, ce qui lui vaudra son nom d'emprunt, le Gaussien, qu'elle a gardé. Tandis que lui se sent si faible. Avant la guerre, il n'était qu'un jeune catholique de droite à l'enfance malheureuse. À Lyon, au lycée du Parc, son mentor était Jean Guiton, un philosophe qui se révélera pétainiste. Et que dire de ses 5 années de guerre passées au Stalag de Schleswig ? Nombre de ses camarades s'en sont enfuis alors que lui a préféré y vivre. Ce n'est pas très glorieux. Alors, cette femme qui se jette à son cou sortir de la guerre, c'est un don du ciel. Mais un don qui se paye cher. C'est-à-dire qu'au terme de leur première nuit passée ensemble, il a alors 30 ans. Le choc est si grand qu'il doit être interné à Sainte-Anne, où le diagnostic maniaco-dépressif était édité. Un verdict qui n'effraie pas Hélène. Elle en a vu d'autres, et elle croit en lui. Le train avance dans la nuit, et Hélène s'interroge. Rétrospectivement, l'échec de leur histoire était-il prévisible ? Quand a-t-il commencé à vouloir la dominer ? À quel moment s'est enclenché le processus de cruauté ? Élément de réponse avec cette autre lettre reçue il y a longtemps. En 1958.
Je crois que je t'ai imposé dans les dernières années et sans doute dès le début ou presque de nos relations, une infinité de brimades. Je t'ai brimé pour ta maladresse. Je t'ai brimé pour tes tâches. Je t'ai brimé pour ta façon de t'habiller. Je t'ai brimé en te coupant la parole devant des tiers. Et ce qui est pis, sans que personne ne fût là entre nous, en montrant de l'impatience quand tu parlais. Je t'ai brimé pour tes sauces de salade. Je t'ai brimé, et c'est sans doute le plus important, en me montrant sceptique à l'égard d'un certain nombre de tes projets, ta capacité à l'endroit de l'italien, par exemple, de tes jugements, ce que tu pensais du monde du cinéma, par exemple, voire de tes capacités de transformation. Cela fait une jolie somme. Je sais maintenant qui ces brimades visaient. Nous savons que c'est ma mère. Il n'y a plus le moindre doute là-dessus.
Payé pour la mère d'Althusser, peut-être. Mais que faire après coup de ces révélations psychanalytiques? Côté Althusser, pas grand-chose. L'homme pourtant est brillant. Il est devenu secrétaire de l'ENS, dans le jargon dit « agrégé répétiteur » ou encore « caïman ». Ce qui signifie qu'il entretient un rapport direct aux élèves, qui tous louent sa douceur et la modernité de sa pensée. En quelques années, il a renouvelé les domaines du structuralisme, de l'épistémologie et de la psychanalyse, tout en les mêlant au marxisme. C'est ainsi qu'une bande de jeunes philosophes branchés s'agrège autour de lui. Jacques Rancière, Étienne Balibar, Michel Foucault ou Bernard-Henri Lévy, le fleuron de la nouvelle philosophie. Sous la direction d'Althusser, en 65, tous participent à l'écriture du livre « Lire le Capital ». C'est ainsi qu'à 50 ans, le caïman s'installe au creuset de l'idéologie de mai 68. Or, aucun de ses élèves ne sait qu'il passe la moitié de son temps à Sainte-Anne, d'où il voit passer mai 68 de loin. On l'imagine inspiré, en vérité, il va très mal. Hélène le soutient, bien sûr, mais force est de constater que leurs relations sont de plus en plus difficiles. Depuis quelque temps, il a eu dans l'idée de lui imposer son propre psychanalyste, René Diachtine. Étrange mélange des genres. Alors quoi? Divorcé? Difficile. Son aura est si puissante. Il suffit qu'il prononce des phrases comme « La fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est la fin de l'exploitation d'un inconscient par l'autre. » Et tous sont fascinés. Alors, dans son ombre, Hélène continue d'encaisser les séquences humiliantes, très humiliantes, comme lors de ce séjour à Saint-Tropez, raconté ici par Althusser dans son livre « L'avenir dure longtemps ».
Ce jour-là, un ami vient dîner avec une très belle jeune femme sur qui je me jetais. J'attire la fille à côté et me mets carrément à lui caresser les seins, le ventre et le sexe. Elle se laisse faire, un peu interloquée, mais préparée par mes discours. Puis je propose d'aller sur la plage. Toujours devant Hélène, qui ne savait pas nager, j'invite la jeune femme à se dévêtir et nous entrons tout nus dans les vagues déchaînées. Nous nageons un peu au large et là, nous faisons quasiment l'amour en pleine mer. Quand nous sommes sur la plage, Hélène a disparu. Je finis par la découvrir, méconnaissable, recroquevillée sur elle-même, tremblant d'une crise quasi hystérique, et le visage d'une très vieille femme ravagée de larmes. Au bout de je ne sais combien de temps, elle ouvre la bouche pour me chasser violemment. « Tu es ignoble, tu es mort pour moi, je ne veux plus te voir, je ne peux plus tolérer de vivre avec toi. »
Oh que non, elle ne veut plus le voir. Et pourtant, elle reste. Des années que les mécanismes de violence se sont installés. Voilà pourquoi elle s'échappe dans le sud au seuil de cette année 1980. Voilà pourquoi aussi elle mise sur ce nouvel appartement de la rue Lucien-Lohen pour échapper à son emprise. Évidemment, ce projet de déménagement ne plaît pas du tout à Althusser. Il l'explique dans son autobiographie.
Je ne sais quel régime de vie j'imposais à Hélène. Et je sais que j'ai pu être réellement capable du pire. Mais elle déclara avec une résolution qui me terrifia qu'elle ne pouvait plus vivre avec moi, que j'étais pour elle un monstre et qu'elle voulait me quitter à jamais. Elle se mit ostensiblement à chercher un logement. Elle prit alors des dispositions pratiques qui me furent insoutenables. Elle m'abandonnait en ma propre présence, dans notre propre appartement. Cet abandon me paraissait plus insupportable que tout.
À quoi pense Hélène ce dimanche 16 novembre lorsque le train la dépose à Paris? Sans doute que le moment est venu de lui dire vraiment « je te quitte ». Il est 8 heures lorsqu'elle arrive à l'ENS, tout est calme. Mais Althusser lui est déjà réveillé, il l'accueille. Que se disent-ils? Nous ne le saurons jamais. La scène qui suit est le seul témoignage qui subsiste de ce moment de leur vie. Et une fois de plus, c'est lui qui la raconte dans cette séquence extraite de son autobiographie.
Voici la scène du meurtre, telle que je l'ai vécue. Soudain, je suis debout en robe de chambre, au pied du lit, dans mon appartement de l'école normale. Devant moi, Hélène, couchée sur le dos, elle aussi en robe de chambre. Son bassin repose sur le bord du lit, ses jambes abandonnées sur la moquette du sol. Penché sur son corps, je suis en train de lui masser le cou. J'appuie mes deux pouces dans le creux de la chair qui borde le haut du sternum et, appuyant, je rejoins lentement un pouce vers la droite, un pouce vers la gauche, la zone plus dure, au-dessous des oreilles. Je masse en V. Je ressens une grande fatigue musculaire dans mes avant-bras. Le visage d'Hélène est immobile et serein. Ses yeux ouverts fixent le plafond. Et soudain, je suis frappé de terreur. Ses yeux sont interminablement fixes et surtout voici qu'un bref bout de langue repose, insolite et paisible, entre ses dents et ses lèvres. Certes, j'ai déjà vu des morts, mais de ma vie, je n'ai vu le visage d'une étranglée. Je me redresse et hurle « J'ai étranglé Hélène !»
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Louis Althusser, philosophe et assassin.
Affaires Sensibles sur France Inter.
Avant de parler de la météo, je crois qu'il faut que je vous parle d'une affaire extrêmement pénible. C'est la mort de l'épouse du philosophe Louis Althusser. Le philosophe qui souffrait d'une profonde dépression depuis plusieurs mois s'accuse du meurtre et d'ailleurs le parquet vient d'ouvrir une information à son encontre pour homicide volontaire. Le secrétaire de l'école normale supérieure est actuellement hospitalisé à Sainte-Anne.
Lundi 17 novembre 1980. Depuis 24 heures, le tout Paris s'agite car la rumeur est sidérante. Althusser aurait tué sa femme. Des grandes écoles aux universités, des salles de rédaction au ministère, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Et il n'est pas étonnant que PPDA, ici au micro du journal d'Antenne 2, le qualifie d'extrêmement pénible, cette information. Car Althusser représente la crème de l'intelligentsia. Alors quoi? Les intellectuels se seraient trompés? Dans les cercles du pouvoir, certains écarquillent les yeux, mais d'autres chuchotent qu'ils s'attendaient à cette fin tragique. À l'instar de l'épistémologiste Dominique Lecourt, ici au micro de France Culture.
C'était prévisible. C'était si prévisible que, sous une forme ou sous une autre, un drame allait se produire, une tragédie même, qu'un certain nombre d'entre nous, je veux dire les personnes de son entourage, ses anciens élèves, les amis de l'un et de l'autre. Nous étions très alarmés. Et personnellement, j'avais été voir très peu de temps auparavant son médecin, René Diatkin, pour lui dire que j'avais le sentiment, depuis quelque temps, qu'une catastrophe allait se produire, parce que je ne les avais vus jamais, ni l'un ni l'autre, dans l'état où ils étaient. Moyennant quoi, je m'étais fait répondre poliment mais fermement, un, de m'occuper de mes affaires, et deux, que en réalité, ce que je prenais pour une situation très tragique n'était que ce qui l'appelait une crise résolutive.
Une crise résolutive qui se résout par un féminicide. Le mot n'existe pas encore, mais Althusser l'avoue immédiatement. Oui, il a tué sa femme. Puis il est allé frapper à la porte du docteur Pierre-Étienne, le médecin de l'ENS. Ils se connaissent depuis 30 ans. Il a confiance en lui. Il lui crie « Pierre, viens voir, je crois que j'ai tué Hélène ». Sidéré, le médecin enfile une robe de chambre, traverse la cour et entre dans l'appartement du philosophe. Et là, en effet, face à lui, Hélène qui gît. À ses côtés, Althusser crie « Fais quelque chose ou je fous le feu à la baraque ». Puis le voilà qui répète en boucle « J'ai tué Hélène, mais qu'est-ce qui vient après ?» Qu'est-ce qui vient après ? Ah, logiquement la police. Mais le docteur Étienne n'est pas du genre à considérer son ami comme un citoyen classique. L'égalité devant la loi, c'est bon pour la théorie. Ici, mieux vaut penser privilège. C'est donc une ambulance qui arrive pour mener le meurtrier à Sainte-Anne. Ainsi, lorsque Jean Bousquet, le directeur de l'ENS, finit par appeler la police, Althusser est déjà parti. Quelques heures plus tard, les résultats de l'autopsie tombent et confirment la mort par strangulation de sa femme. Le verdict des professeurs de Houve et de Ponge est sans appel. Le larynx et les deux cornes thyroïdiennes ont bien été fracturés. Immédiatement, le juge d'instruction Guy Joly se rend à Sainte-Anne pour signifier à Althusser son inculpation pour homicide volontaire. Hélas, le philosophe peine à comprendre le sens de cet acte judiciaire. On l'a bourré de calmants, on chuchote et on évoque une crise aiguë de confusion mentale. Un euphémisme qui irrite le garde des Sceaux, Alain Perfit, furieux de la tournure que prend cette affaire. Il connaît bien le fonctionnement de l'ENS, il a été lui-même élève, 6 ans après Althusser. Mais que faire face à des juges si cléments ? À vrai dire, pas grand-chose. C'est le propre des démocraties que de disposer d'une justice indépendante et parfois vulnérable. Le juge Joly est très impressionné par la garde rapprochée du philosophe, leur phrasé sophistiqué. Il décide donc de laisser le meurtrier à Sainte-Anne et d'attendre l'avis des psychiatres avant de déterminer son degré de responsabilité. Car après tout, Althusser a-t-il bien mesuré la portée de son acte ? C'est ainsi qu'en quelques jours, l'insupportable récit collectif se tisse. « Elle lui pompait l'air !» s'exclame l'écrivain Philippe Solers. « Il l'a asphyxié pour la sauver de l'angoisse qu'il l'a asphyxié lui-même », explique doctement Régis Debray. Puis c'est le philosophe François Regnault qui considère qu'étrangler sa femme, cela arrive. Et c'est enfin Jean Guiton, l'ancien mentor d'Althusser, qui assure au micro de Jacques Chancel que son collègue philosophe a tué sa femme par amour pour elle. Étrangement, les journalistes s'alignent eux aussi sur ce narratif. Tous ? Non, évidemment. Presque tous. Rares, en tout cas, sont ceux qui aussi opposés. L'un d'eux se nomme Dominique Jamais. Sa tribune dans le quotidien de Paris fait scandale.
Que de précautions, mes seigneurs, que de prudence, que de réticence, que de pieux mensonges, que de plumes tournées et retournées dans l'encrier, et que d'a priori, à commencer par celui qu'un agrégé ne saurait être un assassin. L'affaire est pourtant des plus simples. L'homme a effectivement assassiné sa compagne. On imagine aisément la suite. Allô, le commissariat ? Eh bien non, car l'assassin n'est pas un quidam. C'est un membre éminent de l'establishment intellectuel français. Il est du côté des puissants, bien qu'il se soit penché avec sympathie sur les misérables. Alors, des amis, des enseignants, des médecins organisent autour du philosophe une conspiration qui vise à lui éviter les ennuis, les affres et les humiliations habituellement réservées à ses pareils. L'interrogatoire, la garde à vue, la reconstitution, l'envoi au dépôt, la nomination d'experts, l'instruction, le long chemin qui mène aux assises ou à l'asile. Ils le mettent dans une voiture, ils le conduisent à Sainte-Anne, ils le soustraient à la police bien molle, à la justice bien lente. Ils l'auraient bien soustrait à la presse s'ils l'avaient pu. Et cela a failli marcher. Existe-t-il donc des privilèges d'État ?
Des privilèges d'État ? À gauche, la levée de bouclier est immédiate. On jette l'anathème contre cette presse de droite qualifiée de dégueulasse. Et on recentre le débat sur la sémantique. Doit-on parler de psychose maniaco-dépressive, de schizophrénie, de mélancolie ? On palabre. En vérité, on noie le poisson. Et Hélène, c'est comme si elle avait été tuée deux fois. Exemple, dès le 18 novembre, soit deux jours seulement après sa mort, son prénom n'apparaît qu'à la toute fin de l'article de Libération. Et c'est ainsi qu'en janvier 1981, le juge d'instruction prononce un non-lieu en vertu de l'article 64 qui stipule qu'il n'y a ni crime ni délit si le coupable est pris de démence. Althusser ne sera donc jamais jugé. Il sort de l'hôpital deux ans plus tard et décide d'investir l'appartement du 20e arrondissement qu'Hélène avait acheté pour refaire sa vie. Voilà, affaire classée, pas tout à fait. Car le 14 mars 85, une femme prend la plume. C'est la chroniqueuse Claude Sarotte qui réagit à la starification, du cannibale japonais Issei Isagawa, après qu'il a publié ses mémoires. Dans les colonnes du Monde, elle écrit « C'est bien d'être riche quand même. Riche, célèbre ou puissant. Ça sert dans l'existence. Ça permet de se tirer d'affaires en toutes circonstances. Nous, dans les médias, dès qu'on voit un nom prestigieux mêlé à un procès juteux, on en fait tout un plat. Mais la victime, elle ne mérite pas trois lignes. La vedette, c'est le coupable. » Bien sûr, il s'agit d'un texte qui condamne Issei Isagawa, un fils à papa psychopathe. Mais en creux, comment ne pas y voir une charge contre l'impunité d'Althusser ? Aussitôt, les beaux esprits s'enflamment, tous s'offusquent de l'analogie faite entre le sadisme d'un étudiant et la mélancolie d'un maître. Et ils poussent Althusser à réagir. Le résultat ? Une autobiographie de 576 pages qu'il écrit fiévreusement. Cachée dans son bureau, l'œuvre alimente tous les fantasmes. Jusqu'à ce qu'en 1990, la mort emporte Althusser à la clinique de la Verrière sans qu'il n'ait fait un seul jour de prison. Dans les journaux, les hommages se succèdent, qui tous mentionnent Hélène comme un point de détail dans le parcours du maître. Mais deux ans plus tard, coup de théâtre, les éditions Stock publient la fameuse autobiographie que le maître cachait dans ses tiroirs. Son titre, « L'avenir dure longtemps », un livre dans lequel le meurtre est évoqué, on devrait dire évacué, comme un geste amoureux.
Hélène s'est laissée faire. Je crois que cela a été un meurtre fait à deux. Je considère la scène du meurtre comme une scène où Hélène a dû jouer un rôle actif, même sous une forme apparemment passive et ambiguë, l'équivalent d'une scène de séduction sexuelle. Elle a même dû être plus qu'active, provocante quelque part. Le meurtre s'est donc fait à deux. Il a été la réalisation à deux d'un type extrême de relation sexuelle, une folie à deux.
Et à nouveau, la presse s'enthousiasme. Résultat, en quelques semaines, il s'en vend 35 000 exemplaires, sans compter les traductions à l'international. L'éditeur déclare « Ce fut le point de départ d'un épanouissement posthume sans précédent. L'avenir, du longtemps, a réussi à s'affirmer comme une œuvre majeure du XXe siècle. À faire plus et mieux que soulever la pierre tombale du silence, à faire entendre cette voix singulière. » En vérité, sous cette pierre tombale du silence, il y a Hélène. Mais qui s'en soucie ? Face au succès, grande est la tentation d'exhumer d'autres récits d'Althusser. Et côté éditeur, la bataille fait rage. C'est ainsi qu'en 2011, c'est Grasset qui l'emporte en publiant un énorme recueil titré « Lettres à Hélène ». En substance, 420 lettres écrites par Althusser qu'Hélène avait pieusement conservées. Mais quid de celles qu'Hélène a écrites ? Nul ne sait ce qu'elles sont devenues ou si elles ont été jetées. Le livre n'est donc pas un dialogue, mais une fois de plus, un monologue signé Althusser, le grand maître. Et là encore, les journalistes se pâment. Exemple dans Le Monde.
Extrêmement prévenant, tour à tour charmeur et plein d'humour, Althusser y parle un peu de philosophie ou de politique. Voilà pourquoi les lettres à Hélène obligent à poser cette vieille question. Et si les deux Althusser, le théoricien et le fou, ne faisaient qu'un, sans nulle contradiction, sans coupure aucune? Ce qui les réunit, pense-t-on en refermant le livre, c'est l'extase de l'abîme. Autrement dit, cette certitude douloureusement poétique. Seul le saccage des liens permet de fonder une nouvelle alliance. L'anéantissement reste l'unique acte de création, l'ultime preuve d'amour.
En outre, aucun journaliste ne pense à lier le meurtre d'Hélène aux centaines de féminicides qui surgissent en France chaque année. C'est un angle mort de la sociologie française. Pourtant, de nombreux colloques sont organisés autour de l'Althusser, à Lyon, à Nanterre, à Montpellier, mais tous s'obstinent à sonder sa philosophie et nul ne voit dans l'épisode du meurtre la preuve d'un dysfonctionnement plus global, plus politique. Puis voilà qu'un documentaire est diffusé sur Arte. Il se nomme Althusser, de la raison à la déraison. Une fois encore, la parole est donnée aux anciens élèves du maître. La mort d'Hélène, une anomalie. Le symptôme du mal de vivre, un élément perturbateur et regrettable. Nous sommes en 2016, une période durant laquelle la parole des victimes est encore largement confisquée.
Le corps des femmes, le champ de bataille, le corps des femmes, le champ de bataille, femme, vie, liberté, femme, vie, liberté.
Mais un an plus tard, voilà que la vague MeToo submerge la France. Et chaque jour, les témoignages se succèdent, plus effrayants les uns que les autres. C'est ainsi que, pour reprendre le jargon des psychanalystes, le retour du refoulé finit par ressurgir dans le lieu même du crime, à l'ENS. Les étudiants et étudiantes de la prestigieuse école ont-ils lu le brûlot écrit par Francis Dupuy-Déry? Le livre, pourtant, n'a été publié qu'au Québec, vu qu'en France, aucune maison d'édition n'a souhaité l'acquérir. C'est un livre bleu-vert, tout petit et hautement inflammable. Il se nomme Althusser Assassin et il reprend l'histoire de A à Z. 96 pages qui interrogent les privilèges, 96 pages qui offrent un éclairage non plus psychologique mais politique de l'affaire. C'est ainsi qu'au printemps 2023, une inscription surgit sur le frontispice de la salle de séminaire Raymond Aron à l'ENS. Oui, quelqu'un a pris un feutre noir, une grande feuille blanche, et a écrit les mots suivants. Salle Hélène Legossien-Rittmann, résistante et sociologue, victime d'un féminicide en 1980 à l'ENS. Puis, sur la porte, cette seconde inscription, en mémoire d'Hélène Legossien-Rittmann, sociologue et résistante assassinée par son mari, Louis Althusser, en 1980 à l'ENS. On n'oublie pas, on ne pardonne pas.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Louis Althusser, féminicide à l'ENS. On en parle avec notre invité Francis Dupuy-Déry. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je vous en prie, vous êtes en direct des studios de Radio-Canada à Montréal, que nous remercions pour leur accueil. Vous êtes chercheur en sciences politiques et en études féministes à l'Université du Québec, UQAM. Mais vous êtes, comment ça se prononce, UQAM, comment dites-vous?
UQAM, exactement. UQAM.
Oui. Et vous êtes l'auteur surtout de ce livre, Althusser Assassin, publié aux éditions du Remue-Ménage en 2023, dont nous avons beaucoup parlé à la fin de ce récit. Livre qui a fait beaucoup de bruit, mais j'imagine que ça n'est pas hasard s'il n'a pas été publié par un éditeur français. Vous n'avez pas été étonné, j'imagine.
Ben, en fait, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas soumis à des éditeurs français, donc j'ai pas fait l'expérience, directe. Mm-hmm. Il y a une toute petite collection aux éditions Remue Ménage, qui est une maison d'édition féministe, qui est d'ailleurs diffusée et distribuée en France, qui s'appelle Micro Remue, et qui justement publie des livres petits dans le format et dans le nombre de pages. Et en discutant avec l'éditrice, parce que j'avais déjà publié des livres dans cette maison d'édition, c'est là qu'on a eu l'idée là de faire ce petit livre sur Althusser, qui a aussi circulé en France par ailleurs, qui est disponible dans les librairies, je pense.
Alors, pensez-vous que cette question de l'impunité d'Althusser dérange encore en France?
Ben, en fait, je pense que les... Et c'est pas seulement grâce à mon livre, là, il faut pas non plus... Les livres ont parfois des impacts, mais il y a d'autres acteurs et actrices surtout. Et vous l'avez mentionné dans le portrait que vous avez fait de cette affaire. Les étudiantes de l'École normale supérieure aussi se sont mobilisées, entre autres dans la foulée de MeToo, donc des dénonciations d'agressions sexuelles, et dans d'autres mouvements sociaux, donc sous forme de graffiti par exemple, et se sont réappropriées une salle pour la rebaptiser salle Hélène Légossien-Reitman, son nom de famille original. Et donc il y a la journaliste aussi à Libération, Johanna Lucienne, qui a fait un grand travail, là, qui a publié un livre, Les Fragments d'Hélène, qui est malheureusement pas encore arrivé dans les librairies au Québec, donc que je n'ai pas pu voir. Et il y a aussi l'historienne Lucie Rondeau-Dunoyer, qui travaille à réhabiliter la mémoire et le travail intellectuel et sociologique d'Hélène Légossien. Donc il y a plusieurs, disons qu'on est une sorte de groupe d'affinité ou de chorale qui essayons de chanter la mémoire d'Hélène Légossien.
Alors, le combat féministe passe par le champ lexical. Hein. Pour vous faire une confidence, il y a 10 ans, Affaires Sensibles avait raconté l'histoire de Marie Trintignant, assassinée par Quentin, et on avait dit crime passionnel, parce qu'à l'époque on disait crime passionnel. Et on a réenregistré l'émission en disant féminicide. D'où vient ce terme de féminicide? Il n'existait pas du temps de l'Althusser, il n'a commencé à être pris par les journalistes français qu'en 2019, année durant laquelle d'ailleurs il était consacré mot de l'année par le petit Robert.
Oui, alors, petite parenthèse sur Bertrand Cantat, donc ce musicien qui a tué sa conjointe Marie Trintignant, une actrice, à coup de poing d'ailleurs. Vos collègues de Libération, il y a 2-3 ans, ont fait un dossier spécial parce que c'était les 20 ans de cet assassinat. Bertrand Cantat est de Bordeaux, il est encore actif à Bordeaux, et le journaliste qui parlait du milieu culturel de Bordeaux a dit « Je n'ai trouvé personne sauf un acteur du milieu culturel de Bordeaux qui a accepté de parler sous couvert de l'anonymat de cette affaire ». Donc vous voyez, il y a des cas où l'omerta fonctionne encore. Pour le mot féminicide, ça vient en fait d'Amérique latine, du Mexique entre autres, où dans la zone frontière, il y a eu des centaines et des centaines de femmes assassinées. Les corps ont été disparus. C'est dans des contextes absolument atroces. Il y a des viols, tortures. Et c'est le terme féminicide dans ce contexte englobe en fait une sorte de structure ou de système de corruption, d'impunité, où des acteurs divers sont impliqués, des acteurs de l'État, des forces paramilitaires, des groupes criminalisés. Et c'est lié aussi à ce qu'on appelle la mondialisation des marchés, les délocalisations, les déplacements de population migrantes, les flux économiques, etc. Donc ça vient de là. Et effectivement, vers 2019, vous dites pour la France, mais ça a été la même chose au Québec, le terme s'est vraiment popularisé en français, et surtout, je pense c'est important, sous la pression des féministes, des mobilisations féministes, il a été repris par vos collègues, par les médias. Et il a effectivement remplacé des termes qui, quand on y pense, étaient quand même scandaleux. Faits divers, drame passionnel, drame familial. C'était comme ça qu'on nommait des meurtres de femmes. Et le terme féminicide, maintenant, s'est imposé. Ça donne quand même... C'est une victoire féministe, même si, malheureusement, les féminicides, eux, ne sont pas en baisse, ni en France, ni au Québec.
Oui, parce que le crime passionnel, ça veut dire... dans l'esprit de la justice, avant, bon, crime un peu excusable quand même, hein, parce que c'est le cœur, voilà. Effectivement, c'était...
Absolument, mais comme vous l'avez mentionné, il y a des interprètes du meurtre de Louis Althusser qui jouent cette carte du romantisme. Hein, c'est la preuve, apparemment, la preuve ultime d'amour, c'est de tuer quelqu'un. Il faut mieux éviter l'amour dans ce cas-là.
Mais comment comprendre que les journalistes aient préféré défendre Althusser plutôt qu'Hélène? Dans votre livre, vous parlez d'une véritable caste, c'est la fameuse hégémonie culturelle de Gramsci, hein, ça, qui s'illustre avec le cas Althusser.
Oui, alors le terme de véritable caste, il est repris d'une sociologue féministe, Christine Delphi, qui avait analysé le cas du viol commis par Dominique Strauss-Kahn dans un hôtel à New York, on s'en rappelle, je pense, en France.
Ah oui.
À New York, en fait, aussi.
En 2011. Mai 2011.
Exactement. Et donc, il y avait eu une levée de boucliers pour protéger Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque était même présumément candidat à la présidentielle pour le Parti socialiste. On avait beaucoup critiqué la justice américaine, hein, ce qui est une mode un peu en France, là, de par effet de distinction, on critique les États-Unis pour se distinguer, mais alors que les faits étaient assez évidents. D'ailleurs, il y a eu un accord hors cours, il a payé pour ça. Mais oui, cette caste dont on parle là, elle est évidente et ça crève les yeux en fait dans le cas de Althusser. Vous l'avez bien présenté dans le reportage. Althusser n'a même pas été rencontré par la police là. C'est quand même extraordinaire dans le vrai sens du terme. Bernard-Henri Lévy, lui qui était un de ses anciens étudiants, parle réellement d'une sorte de complot des normaliens, donc de ses anciens étudiants plus de l'administration de l'école normale supérieure. Mais évidemment, il y a beaucoup de monde dans le milieu culturel français qui n'était pas, disons, participant du complot, c'est-à-dire qui ne connaissait pas nécessairement Althusser ou qui n'était pas dans son cercle rapproché, mais qui se sont laissés, je dirais, séduire, saouler, berner, charmer, par des explications qui, en apparence, sont sophistiquées, mais en réalité sont tout à fait ridicules, voire abjectes. Donc, on les retrouve, hein, c'est le tueur lui-même qui s'explique malheureusement dans son autobiographie. Il prétend qu'en fait, il n'a pas vraiment voulu tuer Hélène Légossien, mais il a voulu tuer sa mère, ou sa sœur, ou son père, ou il a voulu se tuer lui-même, ou Hélène Légossien voulait qu'il le tue, c'est un suicide altruiste, ou c'est un meurtre à deux, il s'est tué lui-même en la tuant elle, et finalement il l'a tué par amour. Donc on s'empêtre en fait dans ces explications totalement absurdes en réalité, mais qui ont l'air vraiment sophistiquées. Et dans mon livre, je cite là des passages de recension de ses livres ou de commentaires de ses proches ou de ses admirateurs qui a priori ça a l'air de la très belle littérature, mais quand on prend conscience de ce dont il est question, c'est pathétique et dégoûtant.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Francis Dupuy-Déry, on a parlé de caste, et la presse de gauche en a fait partie. Comment comprendre qu'elle se soit à ce point fourvoyée dans cette affaire?
Oui, alors il y a au moins deux ou trois pistes d'explication. Premièrement, Althusser lui-même faisait partie de l'élite intellectuelle. Il avait des disciples, il avait un cercle, une garde rapprochée. Ensuite, on est dans les années, on est en 1980. Mitterrand, le Parti socialiste, donc vient de remporter la présidence. On est en pleine guerre froide et il y a évidemment une tradition de anticommuniste en France et dans d'autres pays qui est forte. Et moi, je me rappelle, j'étais étudiant au milieu des années 80, et un de mes professeurs, plutôt de droite, disons, nous avait lancé cette boutade, la preuve que le marxisme est foutu comme théorie et comme projet politique, c'est que ces deux plus grands penseurs, Nico Pulenza s'est suicidé et Louis Althusser a tué sa femme. Donc vous voyez un peu le et Althusser lui-même le dit. Il dit en fait la presse de droite me critique, mais en fait il y voit de l'anticommunisme alors qu'il a quand même tué son conjointe. Donc c'est une sorte de réaction de défense de la gauche et de l'extrême gauche, disons, à ce niveau-là. Et puis bon, deuxième explication peut-être aussi importante sinon plus importante, c'est que il y a une longue tradition aussi anti-féminisme dans la gauche et dans l'extrême gauche. En France, il faut lire les 500 pages de Proudhon par exemple, qui consacre à prouver l'infériorité physique, intellectuelle et morale des femmes. 500 pages, hein, c'est pas une note en bas de page là. Et il y a évidemment des histoires macabres dans la gauche et dans l'extrême gauche française. Il y a aussi des processus de caste et d'impunité. Donc c'est un cas exceptionnel dans le sens où lui est allé jusqu'à étrangler et donc assassiner sa conjointe. Mais si on pense par exemple aux agressions sexuelles ou au harcèlement sexuel ou au viol, la gauche a aussi son histoire une histoire aussi de complaisance et de protection des agresseurs.
Alors, ce qui a changé aujourd'hui en France, parce que la gauche radicale est probablement aujourd'hui la plus en pointe sur le combat sur le féminisme. En 2023, le philosophe Patrice Manillier déclare « J'ai songé, il y a 5 ou 6 ans, à faire un cours d'un semestre à Nanterre sur Althusser, mais j'y ai renoncé car j'ai eu le sentiment de faire un tel cours. Ce que faire un tel cours aujourd'hui serait une manière de minimiser l'importance du féminicide au moment même où il devient enfin une question de débat public. » Alors que faire? Et ça nous renvoie à ce dilemme pour certains. Faut-il séparer l'œuvre de l'homme?
Oui, alors c'est un problème qui est généralement posé de façon binaire. C'est soit on est pour la liberté, et donc on doit avoir une sorte de respect pour la création, la théorie, les œuvres, indépendamment de ce que l'artiste a fait. Ou, à l'inverse, l'artiste a fait des choses, ou l'écrivain a fait des choses tellement épouvantables qu'on le condamne et on ne veut pas voir ou, disons, je veux dire, consommer son œuvre. Évidemment, il y a une troisième manière de voir les choses qui est rarement mentionnée. C'est qu'au-delà de l'auteur ou de l'artiste et de l'œuvre elle-même, il y a dans notre société un nombre considérable de femmes qui ont été agressées, de femmes qui sont des victimes ou qui sont des survivantes et qui vivent aux côtés d'hommes qui sont aussi des agresseurs. Et il faut penser aussi à ces personnes et se mettre à leur place. Et il y est tout à fait légitime dans ce contexte, dans cette situation, dans ce type de société où une fois tous les 2-3 jours, par exemple, une femme est tuée en France parce qu'elle est une femme, que des personnes disent « ben moi, je suis en fait répulsé de voir ou qu'on me propose en fait de discuter ou de on me propose d'admirer ou d'apprécier ce type d'œuvre. Et entre vous et moi, il y a tellement d'auteurs, tellement d'artistes, tellement d'écrivains, tellement de créateurs, pas seulement en France, hein, dans le monde, qu'on connaît ou qu'on connaît mal ou qu'on connaît pas du tout, que c'est pas si grave que ça là, si on se prive de lire Louis Althusser.
Une dernière chose, et on va finir par Hélène, justement. Dans la présentation des lettres à Hélène, l'éditeur Olivier Corpé indique qu'aucune lettre postérieure à 1970 a été retrouvée. Ont-elles été perdues dans le déménagement rue Lucien Louen, détruites par Althusser? Qu'en est-il des lettres de sa femme?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lucie Rondeau du Noyer, donc qui est historienne, travaille justement sur ce matériel et va éventuellement publier quelque chose, on imagine, avec ça. Vous avez mentionné Joe Ross aussi, qui était à Port-de-Bouc, là, qui accueillait Hélène Négocien et son équipe de recherche, qui travaillait sur la parole ouvrière ou la parole des ouvriers et ouvrières déclassés, qui lui aussi prépare un livre sur ces mois qu'Hélène Négocien a passé à faire de la recherche sociologique. Donc la je pense que et avec le livre de Johanna Lucienne, là, je pense que dans les prochains mois, prochaines années, on va pouvoir beaucoup mieux connaître Hélène Négocien elle-même.
Très bien, parce que ça manque. Effectivement, ça manque.
Exactement.
Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Francis Dupuy-Déry. Je rappelle le titre de votre livre, tout simplement, Althusser, assassin.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Althusser, Féminicide, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. Et je le rappelle, à 23h ce soir, hein, comme tous les soirs. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian de Rimini.